Décryptualité, semaine 48. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
Un petit sommaire de 5 articles. On va commencer par ZDNet France, les meilleures distributions Linux pour les pros, par Steven J. Vaughan Nichols.
Oui, l'article n'est pas super intéressant, il parle même pas de Debian.
Il doit parler d'autre chose quand même.
Je sais pas, je propose qu'on passe à autre chose. Voilà.
La nuit boude.
Voilà, exactement.
Alors, 20 minutes FR, transition écologique, comment l'open data et l'open source permettent aux citoyens d'agir sur l'environnement, par Martin Régnier.
Alors, il travaille avec The Conversation, qui est un site que je suis pas mal, j'aime beaucoup. Et donc, oui, les données, les logiciels libres, c'est deux choses qui sont plutôt pas mal et qui nous aident à travailler, à améliorer l'environnement. Donc, allez jeter un œil, c'est plutôt intéressant.
Alors, ZDNet France, Libre et Open Source Express, Europe, Radio April, VCAM, Agriculteur Concours, Acteur du Libre, par Thierry Noisette.
Alors, c'est un auteur qu'on voit régulièrement. Il nous a pas fait plein d'articles cette semaine, non, il a fait un gros article. Où il regroupe pas mal de choses. Il parle de l'April et de l'émission de radio qu'on fait toutes les semaines, donc c'est plutôt sympa. Ça fait partie des choses qui font plaisir.
RFI, participer à cartographier le monde pour mieux prévenir les crises humanitaires, par Aurore Lartigue.
Alors ça se base sur OpenStreetMap, largement, sur le projet Missing Maps, les cartes manquantes. Et on en a déjà parlé, on a déjà abordé ce sujet. C'est vraiment une question de travailler ensemble pour essayer, avec les cartos, de faciliter l'intervention d'équipes humanitaires, la gestion des crises qui vont nécessairement advenir. Et on sait que dans le passé, ce travail-là participatif de cartographie a aidé dans différents cas, après des ouragans, après des tremblements de terre. C'est très compliqué de mettre en place des stratégies d'intervention. Donc c'est vraiment un travail qui sauve des vies. Et je vous enjoins à aller jeter un œil, parce que effectivement, vous pourriez aider à améliorer la planète, mais là, vraiment de manière très forte, parce que le prochain tremblement de terre, peut-être des gens qui sont sauvés grâce à ça.
Et le dernier article, ZDNet France, antitrust des entreprises européennes portent plainte contre Microsoft, par Steven J. Vaughan Nichols.
Moi, cet article, il me fait douter, parce que on commence à se faire vieux, tous autant que nous sommes. Et ça fait des années qu'on fait de la radio sur questions d'informatique et tout ça. Et puis, je me demande si on n'est pas un peu dépassé. L'informatique, c'est un domaine qui change tout le temps. Nous, on est des dinosaures, non ?
Pas tout à fait. Là, on est à retour vers le futur. On revit ce qu'on a vécu dans les années 90 ou les années 2000. Parce que Microsoft, ils ont déjà eu des problèmes d'abus de position dominante. Ils s'étaient fait taper sur les doigts à l'époque, mais il semblerait que ce n'est pas suffisant.
Ouais, c'est pas retour vers le futur, donc dans ces cas-là, c'est retour vers le passé, quoi.
Ça marche aussi, c'est le jour sans fin, le jour de la marmotte. Effectivement, là, dans 20 ans...
Il doit y avoir une boucle temporelle quelque part, je pense, un truc comme ça.
On sait déjà ce qui va se passer, mais en attendant, on est au début d'une procédure qui est en train de se lancer. Il y a des petits gars intéressants qui sentent qu'ils sont en train de se faire un petit peu enfumer par Microsoft, parce que Microsoft, avec leur système d'exploitation, la position dominante de leur système d'exploitation, ils ont des moyens de casser la concurrence. Là, la concurrence, c'est les solutions de cloud. Ceci dit, il n'y a pas que ça qui est concerné dans l'article, mais c'est Nextcloud et une trentaine d'autres sociétés européennes qui se sont liguées et qui vont essayer de revendiquer un petit peu de défense auprès de l'Union européenne.
Ils nous avaient déjà fait ça pour Internet Explorer, et donc là, ils recommencent pour leur cloud. Ah, t'as raison, c'est du déjà vu, hein.
Et oui, parce que dans les années 90, années 2000, chers auditeurs, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y avait Internet Explorer, le navigateur qui était intégré au système d'exploitation. D'après Microsoft, c'était nécessaire techniquement parce que cette intégration, on ne pouvait pas s'en passer, on ne pouvait pas retirer ce qui était pour eux une brique cœur du mécanisme. Mais effectivement, on a vu et on a su après que non, finalement, on pouvait, une fois que les institutions tapent du poing sur la table. En attendant, à l'époque, ils avaient mis des équipes techniques, ils avaient développé un navigateur plutôt performant par rapport à la concurrence. Et ça leur avait permis de s'asseoir sur cette dite concurrence. Ils avaient écrasé Netscape, notamment.
Ouais. Même si le navigateur était techniquement pas mauvais, ce qu'on leur reprochait, c'est pas d'avoir fait un bon navigateur, c'était d'avoir utilisé la position dominante de Windows pour faire que les gens le prennent et se posent pas de questions.
Et donc, on avait eu la chance d'avoir un autre navigateur, Firefox, qui était apparu. Puis après, il y en avait eu d'autres, mais on avait le choix.
Ça a été quand même long à se mettre en place. Et c'est dit dans l'article, parce qu'évidemment, dans les citations de cette boîte qui fait le procès, évidemment, ils font le parallèle avec cette affaire et en disant qu'à l'époque, la stratégie de Microsoft avait endormi toute innovation sur les navigateurs pendant 10 ans. On rappelle aussi que Microsoft avait mis en place des technos qui n'étaient pas standardisés, donc avec des fonctionnalités liées au langage HTML, donc pour faire les pages web, mais qui n'étaient pas dans le standard. Ce qui fait que tout un paquet de gens s'étaient mis à faire des sites web en utilisant ces fonctions qui ne marchaient que sur Internet Explorer. Et donc, quand on ne voulait pas utiliser Internet Explorer, on était puni avec des sites qui marchaient mal, des fonctions inaccessibles. Et en gros, ils avaient cassé la logique même d'Internet ou tout système de communication qui doit être standardisé, homogène et où tout fonctionne pareil, en faisant du spécifique. Et donc, ça nous a quand même bien pourri la vie pendant des années et des années.
Moi, en tant que développeur, j'ai encore des sueurs froides quand je pense à optimiser pour IE6. Parce que ce IE6, bah, on se l'est tapé pendant des années, effectivement. Les clients demandaient à ce que, parce qu'il y avait des parts de marché importantes sur ce navigateur, à ce qu'on supporte IE6, et même bien plus tard, quand il était largement obsolète au niveau technique, on devait encore continuer à le supporter. Donc c'était insupportable en l'occurrence, hein. Moi ça m'énervait vraiment vivement. Sachant qu'en plus, bah, c'était pas la meilleure des solutions finalement avec le temps, parce que comme il était intégré au cœur de Windows, hein, il l'avait fait exprès, il y avait des technologies comme ActiveX à l'époque qui permettaient d'accéder à des fonctions assez bas niveau. Eh bien, c'était pas si compliqué pour les méchants, on va dire, d'installer sur votre poste un spyware, donc un logiciel espion, ou un adware, un logiciel de publicité. Et puis aujourd'hui, on dirait un mineur Bitcoin qui va utiliser votre microprocesseur pour faire du minage.
Heureusement, 20 ans après, hein, on n'a plus du tout ce problème-là, et maintenant, on a fait des tas de progrès, et les Windows ne sont plus pourris par des trucs de pub, hein.
Ou pas.
Oui, bah, j'ai vu ça ce week-end. Hein, donc, comme quoi, effectivement, le temps passe, mais les choses ne changent pas tant que ça.
Qu'est-ce que tu as vu ce week-end ? Tu as installé un adware sur ton ordinateur ?
Alors, j'ai rien installé du tout, mais j'ai une amie qui a un Windows et sur lequel il y a des pop-up qui lui disent qu'il faut absolument mettre à jour tous les antivirus de la planète et toute une série de pubs. Et c'est intempestif, c'est tout le temps. Donc, enfin, comme quoi, on a effectivement un peu cette impression de faire du surplace. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce cas, c'est que c'est un groupe d'entreprises qui s'attaque à Microsoft. Et je pense que c'est hyper positif qu'il y ait une organisation et que les acteurs puissent s'organiser pour faire face à une société qui est dans cette position dominante. Nextcloud, c'est du cloud personnel, ou enfin c'est utilisé dans des organisations aussi, hein, pour le coup. On peut l'utiliser en passant par les chatons. Il y a pas mal de chatons qui donnent accès à du Nextcloud. Moi, je l'utilise, c'est très pratique. Et ils attaquent, donc là, non pas le navigateur, mais le fait que les services cloud de Microsoft sont complètement intégrés dans Windows. Et ils le mettent en avant, ils attaquent le fait que Microsoft mette ses solutions en avant. Mais les autres entreprises n'attaquent pas que cette question cloud.
Il y a aussi une autre brique hein, qui s'appelle Teams, qui se fait attaquer parce que Teams est intégré ou s'intègre de plus en plus, je ne connais pas bien hein, parce que je ne l'utilise pas, mais est intégré dans Windows et c'est difficile pour des concurrents alors de s'installer. L'un de vous deux connaît Teams par hasard hein ?
Alors moi pas par hasard, c'est que c'est ce qu'on utilise au travail. Et je suis dans une boîte qui roule pour Microsoft à fond. Et d'une façon générale, tous ces systèmes-là, moi, je suis pas hyper emballé. Notamment parce que quand t'as des problèmes de réseau, tous ces trucs avec des clouds dans tous les sens, eh ben, tu pleures. Même si j'ai changé de travail il y a pas très longtemps, j'ai déjà perdu quelques heures de boulot parce que ça s'est pas synchronisé. Et après, on va dire que c'est peut-être l'implémentation qu'on a, mais Teams, il y a des trucs qui sont mal foutus où à la fois ça sert à communiquer, mais en même temps, ça sert d'organisation de fichiers. Ce qui fait quand on parle avec des gens et qu'on veut le montrer et partager des fichiers en même temps, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est compliqué. Il y a plein de petites trucs merdiques comme ça qui sont mal foutus. Après, ça marche, je veux dire, et la qualité de son est très bonne et tout, hein, mais je veux dire, au prix où ça coûte, je pense que c'est le minimum.
Non, mais regardez pas, moi je connais pas Teams, moi je fais que du logiciel libre.
Bah, notamment, bah oui, hein, on va encourager les gens à utiliser Jitsi, c'est quand même plus sympa.
Ouais, ou Big Blue Button aussi.
Qui est plutôt pas mal. Alors, cerise sur le gâteau des bêtises faites par Microsoft, ils sont fait attraper, on va dire, ils ont aussi mis en place une stratégie pour essayer d'imposer à nouveau leur navigateur. C'est sale, parce que effectivement, c'est à nouveau une solution pour empêcher les autres navigateurs de s'installer. Exactement, c'est pas de s'installer, mais d'être appelé quand on clique sur un lien. Donc, quand on clique sur un lien, dans Windows 10, dans Windows 11, alors je crois que c'est pas encore mis à jour exactement, ça doit dépendre des versions, et bon, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, l'idée, c'est que il y a des petits gars intelligents qui ont développé une application spécifique pour que quand on clique sur les liens, on puisse ouvrir le navigateur de son choix. Pour que le navigateur par défaut, bah, ça puisse être Mozilla ou Chrome ou, alors je sais plus ce qu'il y a d'autre, hein, Brave, il y a d'autres navigateurs qui existent. Ils ont développé tout un petit outil et Microsoft, comme ils contrôlent le système d'exploitation, ils vont empêcher que cet outil puisse fonctionner. Et ils vont imposer que le navigateur par défaut, ce soit le leur. Et donc là, effectivement, bah oui, on est bien retour à la version initiale. Leur navigateur et rien d'autre, mais en plus, même si vous en installez un concurrent, il ne pourra pas s'ouvrir quand vous cliquez sur quoi que ce soit.
C'est moche.
Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont été condamnés, alors c'était il y a longtemps, mais ils ont été condamnés, donc ils savent qu'il ne faut pas le faire, tu vois. Donc parce qu'à un moment, tu peux jouer au con et dire « Ah oui, non, on savait pas, on pensait que c'était bon », parce qu'ils ont argumenté en disant que techniquement, Internet Explorer faisait partie du système d'exploitation qui pouvait pas tourner sans. Aujourd'hui, quand ils font ce choix d'imposer leur navigateur, ils le font parfaitement sciemment en sachant que c'est illégal.
Oui, mais ça finit bien par passer dans certains pays, quoi.
Alors, non, ça...
Oui, oui.
Alors, ceci dit, non, ça passe pas vraiment. Il y a un retour de bâton médiatique. Pour l'instant, c'est confiné au milieu technique, on va dire. Mais clairement, ça va leur retomber dessus s'ils le mettent bien en place. Alors, je sais pas à quel niveau de déploiement ils en sont, mais on peut supposer qu'ils vont pas aller au bout de la démarche. Parce que, oui, comme tu dis, ils ont dû payer des centaines de millions d'euros à la Commission européenne. C'est sale.
Je pense que si ça les inquiétait, ils auraient même pas essayé le truc au début. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tenté le coup en disant peut-être que ça passera à l'as, discret, etc.
Moi, j'en appelle à la schizophrénie. Je pense que la boîte, elle a un petit problème interne. C'est Natia Sadella, le patron, qui est plutôt libriste. En tout cas, il a imposé une stratégie libriste sur pas mal de points. Et puis, il faut croire qu'il y a encore des gars à l'ancienne, genre Steve Ballmer, qui étaient anti-libre à fond, et que ces gars sont encore là, et que de temps en temps, ils proposent des trucs ou ils essayent des choses anti-libre. C'est sale. On peut imaginer, non, c'est des bons petits gars, Microsoft, voyons, ils font plein de libre.
C'est-à-dire une rechute propriétaire de temps en temps?
Plus que de temps en temps, mais en tout cas, une rechute, oui, c'est pas mal, c'est bien vu.
Alors, Manu, moi, je pense que tu mérites le bûcher, rien de moins. Et pour moi, cette affaire, c'est la bonne illustration de la différence entre libre et open source. Et donc, effectivement, Microsoft a fait son tournant open source en disant « Nous, on adore ça, on est des bons petits gars ». Et que ces deux affaires, l'une mise à côté de l'autre, montrent qu'ils peuvent effectivement s'appuyer sur des technos open source, qu'ils peuvent avoir mis des langages et des trucs en open source parce que c'est intéressant techniquement et économiquement, de la même manière que les GAFAM s'appuient massivement sur l'open source aussi parce que ça va dans leur intérêt, mais que dès qu'il s'agit de liberté des utilisateurs et des acteurs autour, ben là, on arrête de rigoler et tout se referme. Que s'ils peuvent bloquer les utilisateurs et les enfermer dans leur système, ils le font. On en avait parlé ces derniers temps. Les vertus prétendues de Microsoft, on a une belle démonstration supplémentaire, si jamais quelqu'un avait un doute, que c'est du pipeau.
Non, mais personne n'avait de doute. Hein.
Mais moi j'espère. Vous êtes dur quand même. Hein. On peut espérer qu'une des plus grosses boîtes d'informatique au monde fasse des choses bien. Voyons.
Naïf.
Alors moi, je trouve qu'elles font une chose de bien quand même. C'est grâce à elles, j'ai l'impression d'avoir 20 ans de moins. Et donc ça, c'est quand même pas mal.
T'inquiète pas, tu es toujours jeune et beau pour nous.
Sur ces belles paroles de jeunes qui retrouvent des années, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine.
Ok, salut.
Salut.